Bonsoir, situation sécuritaire au Nord Kivu. Une centaine de civils tués la semaine dernière à Beni par des prétendus rebelles ougandais des ADF. Selon le vice-gouverneur de cette province qui confirme ce bilan, ce nouveau massacre vient alourdir le bilan des personnes tuées en l'espace d'un mois et demi, passant de 100 à plus de 200 personnes massacrées. Quelle lecture faire de ce nouveau massacre à Beni? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 24 novembre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Feller Loutaïchiroua. Il est vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Maître Loutaïchiroua, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Djuma Balikwisha avec moi dans ce studio, député national et président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Monsieur Balikwisha, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et Jean-Jacques Ondo, expert en questions militaires et analyste politique. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Taki depuis Beni au Nord Kivu. Ce qui sévit dans cette partie du pays peut laisser croire à la population qu'elle est abandonnée à son triste sort. Car depuis que ce carnage a commencé, rien jusque-là ne parvient à arrêter cette hémorragie. Le changement de commandant pourrait changer les choses. Sinon, le peuple risquerait de se prendre en charge. Merci de nous suivre à Beni et au Nord Kivu sous la 92.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nord Kivu, les enquêtes se poursuivent encore sur les nouveaux massacres de plusieurs dizaines de civils par des présumés rebelles ADF dans le territoire de Beni. Plusieurs sources affirment qu'au moins 60 corps auraient déjà été retrouvés et enterrés jusque samedi soir dans le village Tepiumba, situé à une dizaine de kilomètres à l'est de Mavivi. Le secteur reste toutefois bouclé par les FRDC qui y mènent encore des opérations. Bernard Denyangui nous en dit plus.
Les acteurs de la société civile Beni ville et territoire pensent que le bilan de ce nouveau carnage peut s'alourdir au fur et à mesure que les FARDC poursuivront les opérations de ratissage dans les deux villages affectés par ces massacres de jeudi dernier. Pour ces sources corroborées par certaines sources militaires dans la zone, les FARDC ont mené des opérations de ratissage toute la journée de vendredi le long de la rivière Nzouma. Cette présumée ADF aurait été capturée et le samedi, les militaires loyalistes, sur autorisation de la cour militaire opérationnelle, auraient enterré 61 corps à Tepiumba, ce qui porterait à 70 le nombre de corps enterrés après les autres 9 retrouvés vendredi à Masulukwede. Jusque-là, les villages Tepiumba et Kinyamuseo Vemba restent vides, les habitants ayant fui pour la plupart vers Mavivi. Rappelons que les présumés ADF venus en tenue militaire avaient attaqué jeudi les deux villages entre 14h et 16h locales. La société civile dit qu'il y aurait encore une centaine de personnes disparues. Goma, Bernardin Yangi, Radio Capi.
Le gouvernement de la RDC se dit déterminé à anéantir les égorgeurs des femmes et d'enfants dans le territoire de Beni. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi à Kinshasa le porte-parole du gouvernement au cours d'un point de presse. Lambert Mende dit faire confiance aux investigations qui pourront aboutir à des arrestations des criminels et leurs complices qui sèment la désolation à Beni. Il fait allusion au dernier massacre perpétré jeudi dernier. Pour Lambert Mende, le gouvernement a préconisé des mesures sécuritaires pour mettre les populations à l'abri des attaques terroristes dans le territoire de Beni. Les propos de Lambert Mende sont recueillis par Askenzi Biatayoro.
Je voudrais dire tout de suite que la détermination du gouvernement de la République d'anéantir par tous les moyens ces égorgeurs de femmes et d'enfants est totale. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous engageons nos concitoyens du Grand Nord à faire échec à toute idée d'initiative de justice populaire qui poindrait parmi eux. Les mesures que nous avons prises pour Beni, nous pouvons dire que l'armée, sans trahir un secret, a reçu mission de pouvoir aider et encourager les populations de ces petits villages, comme ceux qui ont été attaqués jeudi passé, de pouvoir faire un effort de se rapprocher de grandes agglomérations. l'agglomération pour des raisons de sécurité. Ceux qui le veulent peuvent bénéficier des transports par les camions militaires pour aller le plus près possible de grandes agglomérations où une alerte peut être faite et où les attaques peuvent être moins nombreuses.
C'était la Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Maître Feller Lutaïchiroua, je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Quelle est la situation en ce moment dans les deux villages attaqués jeudi dernier par les prétendus ADF?
En fait, madame, nous saisissons l'occasion pour saluer l'honorable Juma Balikwisha avec l'analyste Wondo, mais aussi avec tous les auditeurs de Radio Okapi. Nous devons profiter aussi de l'occasion pour réitérer nos condoléances à toutes les familles endeuillées à Beni et à Beni territoire. La situation actuellement, c'est une situation sous opération militaire intense. C'est-à-dire que depuis le 21, date de la perpétration de ce massacre, les FARDC ont pu orienter des unités de combat sur cet axe-là. Et depuis lors, on est en train de faire le nettoyage. Comme c'est tout près du parc, parce que il y a la rivière, après la rivière c'est le parc, les opérations se poursuivent. Le massacre se sont perpétrés dans des villages où la population se livrait à des activités champêtres, mais vraisemblablement les assaillants venaient du parc. C'est ainsi que les opérations se poursuivent. Et quand on a trouvé les corps des victimes, et les corps avaient atteint une décomposition avancée avec la cour d'ordre opérationnel, on a été obligé de lever les corps et de permettre à que les enterrements se fassent, sinon il y avait risque d'épidémie, et si jamais on devrait déplacer les corps. Donc, voilà la situation.
Alors, voilà, monsieur le vice-gouverneur, quel est le bilan officiel à ce jour?
Allô?
Quel est le bilan officiel à ce jour, monsieur le vice-gouverneur?
Le bilan est évolutif, parce que le 21, nous avions 9 corps que les FARDC ont pu ramener à Beni territoire, c'était fraîchement après le massacre. Mais quand les opérations ont été engagées, on a trouvé d'autres corps et aujourd'hui dans la matinée, on a dénombré déjà 49 nouveaux corps identifiés et qui étaient dans un état de décomposition avancée. Surtout compte tenu du mode opératoire des ATF qui utilisaient des armes blanches, on a été obligé de procéder aux enterrements.
Alors, près d'une centaine de morts, mais comment on peut expliquer ces nouveaux massacres alors que des mesures avaient été prises par le gouvernement provincial pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise?
Oui, les mesures avaient été prises. Il faut retenir que d'autres mesures vont renforcer les premières mesures. En plaidoyer fait, compte tenu de la situation rapportée au niveau de la hiérarchie, vous avez suivi qu'il y a des mesures qui viennent d'en haut et qui sont en train d'être appliquées. Il y a intensité des opérations militaires, mais aussi au niveau de la sensibilisation de la population, il y a un travail qui s'est fait. Il y a des mesures administratives qui sont en cours d'exécution. Et nous pensons que, tel qu'au niveau de Beni, le couvre-feu a pu donner des résultats, nous avons étendu le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire de Beni pour ce qui concerne les zones opérationnelles. Et nous demandons aussi à la population de s'abstenir d'aller dans les fronts pour des raisons champêtres, le moment que les opérations puissent éloigner, écarter ou éradiquer les ADF qui seraient encore en train de errer dans les alentours.
Monsieur le vice-gouverneur, est-ce que ça veut dire que lorsque ces prétendus rebelles ADF ont attaqué les habitants de ces deux villages, il n'y avait aucun policier dans les secteurs ou aucun militaire?
Non, il se fait que d'abord, ces localités-là sont situées par rapport à la ville de Beni, à plus d'une dizaine de kilomètres vers le nord, et à partir de la route principale, c'est à plus de 14 kilomètres en brousse. Et ce sont des villages isolés, et c'est là où les ADF ont pu surgir et ont pu perpétrer encore le massacre. Et comme ils le font toujours avec des armes blanches, il se fait que même si cela se faisait, il se fait que, hélas, à moins de quelques mètres, il est difficile de pouvoir capter que dans tel ou tel coin il y a un problème.
Merci, monsieur le vice-gouverneur.
Parce qu'ils utilisent ce mode opératoire d'armes blanches pour éviter d'alerter les services de sécurité, particulièrement les FARDC.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. Djuma Valikwisha, je vous rappelle que vous êtes député national et président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Quelle est votre lecture de cette situation, de ces nouveaux massacres à Beni?
Oui, merci beaucoup, madame. D'abord aussi, je profite de l'occasion pour saluer le vice-gouverneur et l'expert militaire Wondo, mais aussi présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées et la population de Beni ainsi que celle du Nord Kivu en général. Alors, quelle lecture? Ma lecture partira d'un constat. Les ADF sont dans la région, particulièrement à Beni, depuis 29 ans. Et ces ADF, théoriquement, ou ce que nous savons, luttent contre le pouvoir de l'Ouganda. Et jusqu'à 2012, ces ADF ne menaient que des opérations de représailles. C'est-à-dire, ils s'attaquaient à des gens avec qui ils avaient des relations d'affaires ou qui voulaient les arnaquer. Et là, on pouvait directement mener des actions, soit pour les éliminer ou faire ce qu'ils pouvaient faire. Donc, ils ne se sont jamais attaqués à la population. Et à ce que je sache, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu que les ADF s'attaquent aussi à la population ougandaise, parce que son objectif, c'est conquérir le pouvoir en Ouganda. Et
mais non, c'est la question que beaucoup d'auditeurs se posent. Pourquoi s'attaquer à la population congolaise alors qu'ils sont contre le régime de l'Ouganda?
C'est pourquoi je partais de ce constat. À partir du moment où le gouvernement, jusque-là, se cramponne sur la thèse qu'il s'agissait des ADF. Or, tel qu'on est en train de voir, et même d'après les rapports militaires, quand il y a eu l'opération Sokol, on nous a appris que ces ADF sont déjà neutralisés à plus de 85%. Alors, comment subitement comme ça, ils vont reprendre le poil de la bête et nous mettre en difficulté? Et les événements derniers de Masulukwede sont parlants. Comment on peut massacrer plus d'une centaine de personnes, les gens qui étaient déjà anéantis, affaiblis de faim, qui meurent de faim, anéantir plus d'une centaine de personnes? Moi, je dis, ça ne peut être qu'une opération commando. Ça doit être des commandos qui ont fait ce genre d'opération. Pourquoi? Moi, ma lecture, je demanderais plutôt au gouvernement de pouvoir réfléchir davantage, pas seulement se cramponner sur la thèse ADF, mais essayer de voir dans les pays voisins. Surtout que nous savons, depuis qu'on a pu défaire le M23, Le pouvoir ougandais les a cantonnés à moins de 10 km de la frontière congolaise. Bon, est-ce qu'on a essayé d'explorer cette piste? Voilà un peu, c'est là où je m'interroge, et ma lecture va dans ce sens-là, que nous puissions analyser correctement la situation.
Alors, donc, vous doutez un peu de cette thèse des ADF qui auraient massacré les civils? Vous estimez que ce ne sont pas eux, mais c'est plutôt un commando venu d'ailleurs?
En fait, les gens affaiblis qui meurent de faim arrivaient à neutraliser 100 personnes sans qu'il y ait réaction de la part de ces 100 personnes, pour au moins neutraliser un ou deux, mais ça, on se pose des questions. C'est pourquoi j'ai dit qu'on analyse sérieusement les faits. Probablement, en fait, ici, la grande question, c'est savoir identifier l'ennemi. identifier qui est réellement l'ennemi. Est-ce les ADF? Parce que même, là je vais vous donner une information, mais bon, je ne dis pas que c'est une information. C'est que nous aurions appris lors de l'opération au niveau de Kamango. Au niveau de Kamango, il paraîtrait que même, il y a eu la mort de 4 ou 6 officiers d'un pays voisin. Bon, est-ce que c'est vrai? Mais si c'est vrai, comment alors on n'avait pas fait allusion à ce pays? Et là, madame, vous vous souviendrez même à l'époque de la guerre du M23. Nous, les députés du Nord Kivu, la grande partie, nous disions que non, le Rwanda est derrière. À Mouakou, on disait que non, ce sont des Congolais. On disait que ce ne sont pas des Congolais, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était le Rwanda. Et quand tout le monde a commencé à parler du Rwanda, et la guerre a changé de physionomie, et nous avons pu défaire ce mouvement, c'est-à-dire l'armée a pu adapter la stratégie par rapport à l'ennemi qui est identifié.
Alors, vous avez rencontré le week-end dernier le ministre de l'Intérieur, vous députés de Beni et Lubero, pour parler justement de cette situation sécuritaire à Beni. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le ministre?
Oui, d'abord, nous avons été plutôt voir le ministre pour plus l'écouter. C'est-à-dire, nous lui avons présenté la situation de Masulu Kwede. C'était après ce carnage qu'on a connu à Beni. On lui a présenté la situation. Et là, nous avons quand même été heureux de constater qu'il était bien informé aussi et que, comme même venait de le dire le vice-gouverneur, et que toutes les dispositions étaient prises pour pouvoir cette fois-ci sécuriser davantage la population. Et le deuxième point, c'était aussi pour savoir, parce que depuis ces événements, surtout depuis le procès Mamadou, il y a maintenant des arrestations, plus des opérateurs économiques, et nous voulions savoir qu'est-ce qu'il y a
aujourd'hui. C'est qu'il pouvait créer des frustrations aussi au sein de la population.
Pas de frustrations, je dirais plus la panique générale, parce que maintenant tout le monde s'observe, c'est le tour de qui, et tout ça, on ne comprend pas. Et quand on n'a pas la bonne information, la spéculation, l'intoxication prend place, et c'est tout le monde qui panique, et l'ennemi peut facilement en profiter.
Alors, vous avez déclaré que ce qui se passe ces derniers temps dans le territoire de Beni, qui est une zone opérationnelle des FARDC contre les forces négatives, n'est rien d'autre que du terrorisme destiné à créer l'inimitié entre les peuples et les militaires.
C'est exact. C'est exact. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis le début, quand on a mené les opérations Sokola, on les a défaits effectivement dans tous les différents cas de retranchement. Mais après l'opération Sokola, mais on disait toujours, attention, il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle. Donc, nous avons affaire à une guérilla. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus une guérilla, c'est plus le terrorisme qui sont en train de mener. Et en venant vers la population avec la tenue de notre armée, et cette situation fait que maintenant, aujourd'hui, la population, face à toute personne en tenue militaire, doit se méfier. Or, mener une guerre contre... Disons, mener une action contre une guérilla ou contre le terrorisme, il faut la complicité de la population.
Merci, Monsieur Bali Kwisha, Jean-Jacques Ondo, vous êtes en ligne. Allô, Monsieur Ondo, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, je suis en ligne, mais la communication est très difficile.
Bon, on va essayer de faire avec. Vous êtes expert en questions militaires et analyste politique. Comment vous analysez ce nouveau massacre dans le territoire de Beni?
Oui, permettez-moi aussi à mon tour de pouvoir saluer le vice-gouverneur de Taïchiwa et le député Djuma Balikoufa. Madame, comment expliquer? Je vous rappelle que c'est la troisième fois en l'espace d'un mois et demi qu'on passe dans vos antennes pour essayer de comprendre, essayer d'analyser la situation, mais on a l'impression de faire du surplace. Et par le passé, ou récemment, quand j'ai essayé d'analyser la situation, on a avancé des facteurs de la déstructuration du commandement opérationnel des FARDC, parce qu'on a connu l'opération Sokola 1 avec le général Baouma, qui s'est très bien déroulé, qui a réduit la capacité de nuisance des ADF Nalou. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec un commandement qui est incapable de mener les mêmes actions de commandement que le feu général Baouma. C'est là interpellé. Lors de notre dernier passage, nous avons recommandé à ce qu'on change le commandement militaire, parce que ce n'est pas normal qu'à l'espace d'un mois et demi, on a eu trois autorités qui soient passées dans la région, il y a le ministre de l'Intérieur qui est allé faire une mission d'évaluation pour comprendre la situation. Il a promis des mesures assez sévères et les renforcements de FRDC. Quelque temps, le président de la République, chef de l'État, est passé. Il a promis la même chose et il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines ou trois semaines, il y a le ministre de la Défense qui est passé aussi pour promettre que des mesures sévères allaient être. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où rien n'évolue et on se pose la question pourquoi ce statu quo, alors que par le passé, on a eu un commandement qui était capable de mener des actions et aussi des troupes sur le terrain qui étaient aiguillées, qui étaient formées sur le modèle de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Bon, ici, on a tout changé, on a tout chamboulé. Toutes les unités opérationnelles commando qui sont formées pour traquer le mouvement type insurrectionnel ou le mouvement type guérilla se retrouvent à Kinshasa, on se retrouve avec le troupe qu'on appelle d'infanterie qui mène des combats qu'on dit de guerre conventionnelle. Ils ne sont pas outillés pour pouvoir mener cette mission. Or, on se pose la question, pourquoi maintenir ces dispositifs alors que ces dispositifs, depuis qu'il a été mis en place, ne permet même pas des avancées substantielles sur le terrain. Cela nous amène, après plusieurs analyses et échanges aussi sur le terrain, à plutôt favoriser la piste, le facteur politique. De mon avis personnel, je pense que le facteur politique du contrôle du territoire du Grand Nord devient de plus en plus apparent dans ce qui se passe à Beni. Lorsqu'on analyse les déclarations des uns et des autres et les faits qui se sont déroulés ces derniers temps, on assiste plutôt à une sorte de confrontation déguisée par procuration entre le camp, je peux le dire, entre le camp du pouvoir ou présidentiel et le camp de l'opposition locale dominée par l'ancien ministre Antipas Moussa Nyamwisi. L'hypothèse des assaillants ADF qui devraient plutôt menacer l'Ouganda parce que les ADF au départ sont des rebelles ougandais qui sont contre le régime ougandais, devient moins plausible parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces rebelles s'attaqueraient plutôt aux populations congolaises au lieu de s'attaquer au pouvoir ougandais, d'autant que lorsqu'on analyse même le mode opératoire des massacres perpétrés ces derniers temps dans le secteur de Beni, on constate qu'il ne ressemble pas au mode d'action des ADF Nalou. On a tendance à attribuer aux ADF Nalou le mode opératoire en utilisant les armes blanches. Quand on analyse dans les études passées leur façon d'opérer, on a constaté que les ADF Nalou utilisent les armes à feu de petit calibre et sont aussi à l'aise avec la guerre des types classiques. Or, ici, on a tendance à voir des assaillants qui recourent à des modes opératoires qui est proche des milices rwandais. Et cela pose des questions, d'autant plus que lors de la deuxième ou la troisième série des massacres, les populations ont pu mettre la main sur des assaillants qui ne parlaient ni la langue locale et qui plutôt été présenté comme étant d'origine rwandaise. Et cela pose problème. Et par ailleurs, ce qu'on constate plutôt que au lieu de traquer les ADF, les autorités administratives et sécuritaires judiciaires de la province ont multiplié des mesures de sanctions et de représailles envers les partisans de Mboussa, dont plusieurs ont été arrêtés et interpellés par les agents de l'ANR. Et c'est le cas notamment du maire de la ville de Beni. Et aussi, on a assisté ces derniers temps au changement au remplacement de plusieurs chefs de quartier qui étaient plutôt d'obédience à l'opposition. On a appris récemment qu'il y a des radios communautaires proches de l'opposition, je pense au parti de Metumbusa ou du MLC, qui étaient fermés sur ordre des autorités. On se pose la question si réellement on a affaire aux ADF ou on a affaire à une guerre politique par des milices ou de groupes interposés.
Merci, monsieur.
D'autant plus que la question que nous analyse et qu'on se pose, c'est de savoir à qui profitent ces massacres. Et on n'a pas de réponse, mais on peut donner des indications. Les réponses peuvent se retrouver. Les responsables de toutes ces situations seraient évidemment des personnes qui perdraient du terrain politique dans ce secteur du Grand Nord.
Merci, voilà. M. Hondo, on vous redonne la parole tout à l'heure. M. le vice-gouverneur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Robert Bahomé de Bukavu, au sud de Kivu. Il est vrai que la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante à Beni. Mais il est aussi vrai que la volonté politique de mettre fin à la rébellion des ADF Nalu semble ne pas animer l'autorité. Au fond, je me demande ce qui peut l'empêcher de recourir aux mêmes stratégies et méthodologies qu'il avait appliquées à la rébellion des M23 à Rutshuru et à Nyiragongo pour mettre aussi en déroute la rébellion des ADF Nalu à Beni.
Réaction, monsieur le vice-gouverneur.
Bon, je salue les analyses de l'expert Eundo, mais tout en considérant que la question elle est assez complexe, parce que l'ADF Nalu, c'est le groupe armé le plus ancien, plus de 28 ans, et il se fait que l'ADF s'était enraciné en faisant des liens, des business avec des populations locales. Mais du point de vue des recrutements, nous considérons que l'ADF recrute non seulement au Congo, en Ouganda, mais aussi dans les pays voisins. Les diverses nationalités des ADF capturées attestent ce que nous sommes en train de dire.
Mais pourquoi ces rebelles?
Donc, il y a des groupes terroristes qui pensaient s'organiser et faire des entraînements sur le dos des ADF, sur la belle des ADF, et c'est pour ça que quand ils ont vu leur sanctuaire démoli, ils ont recouru à ce mode opératoire qui est un mode pratiquement terroriste, et nous considérons que le fait que, il y ait eu coïncidence entre l'organisation du procès Mamadou avec le début de massacre, vous avez suivi, vous tous, en tout cas, tout le monde a suivi le procès et l'aboutissement du procès, et les personnes qui ont été citées, et même lors du séjour du chef de l'État, il y a eu des ADF capturés qui sont malheureusement parmi les complices, parmi les compatriotes au niveau de Beni, et ceux qui voulaient saboter le séjour du chef de l'État.
Est-ce que monsieur le vice-gouverneur, est-ce que vous voulez dire par là que ce ne sont pas les ADF qui cherchent à déstabiliser cette partie du pays, mais plutôt des Congolais qui se cachent derrière ces rebelles?
Non, du point de vue de la composition des ADF. Les ADF étaient composés des Ougandais. Au début, leur objectif est tel que cela ressort de leur dénomination. Ce n'était qu'un groupe qui se préparait pour menacer l'Ouganda. Mais du point de vue de la composition et des diverses nationalités que composait l'ADF, l'ADF s'est métamorphosé avec beaucoup de tentacules, et là-dedans, il y avait une partie importante des Congolais, et essentiellement des Congolais du coin, et même des Congolais qui étaient recrutés, ou soit qui nappaient des forces, que ce soit dans la partie sud de la province, et même au sud Kivu, il y en a qui étaient dupés. Il y a eu 9 Tanzaniens qui ont été appréhendés ici à Goma et à qui on promettait d'amener à Médina. Et pourtant, Médina, c'était pratiquement un village ADF à Beni. Donc, monsieur, c'est fait que quand on a démoli l'ADF, certainement que la partie congolaise comporter d'une certaine manière.
Alors, il y a cet auditeur, monsieur le vice-gouverneur, il y a cet auditeur, Jadot, qui nous écrit de Bukavu au sud Kivu, qui dit ceci: ces différents massacres enregistrés à Beni sont tellement graves que nous avons du mal à confirmer qu'il s'agit là des attaques à mettre sur les dos des rebelles de l'ADF. C'était aussi un peu l'analyse de monsieur Ondo et même du député Djuma Balikwisha qui est avec nous dans ce studio. L'analyste a même parlé des guerres politiques entre la majorité et l'opposition.
Non, au monde entier, le mode opératoire des terroristes, c'est pratiquement semer la terreur. Et c'est pour ça que la nuit, ils surprennent des civils avec, à l'aide des armes blanches, ils massacrent hommes, femmes et enfants. Et dans le dernier cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certains, parce que parmi eux, il y en a qui étaient ligotés et qui ont été massacrés ensemble. Et donc nous considérons que c'est une manière de semer la terreur, de semer une grande panique. Et nous pensons que...
Pour quelle finalité ou pour quel objectif?
Pour l'objectif de répandre l'horreur et par cette horreur-là, faire de sorte qu'on puisse mal identifier l'ennemi. C'est pour ça qu'ils font des simulations, ils utilisent...
Merci, monsieur le vice-gouverneur. Monsieur Djuma Balikwish, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Désiré Lotima de Kisangani à province orientale. Ce n'est pas une solution militaire qui va résoudre ce problème, car ce massacre constitue déjà une expression. Il faut un dialogue éternel nord-kivoussien, entre temps que les autorités tant provinciales que nationales s'auto-examinent s'ils ne sont pas de loin ou de près concernés de ce massacre.
Alors là, cet auditeur aborde déjà la partie des solutions pour arriver à mettre fin à cette situation. Il estime que ce n'est pas une solution militaire qui va résoudre les problèmes, mais c'est plutôt un dialogue inter-kivoussien.
Oui, bon, ça, c'est son opinion, parce que là aussi...
Puisqu'il y a des enfants du Kivu qui sont accusés d'être en connivence, d'être des connivences avec ces rebelles de l'ADF.
Oui, disons, cette question, effectivement, me ramène aussi à réagir un peu à ce que Wondo a dit, quand il disait que c'est une confrontation déguisée entre le camp présidentiel et le camp de l'opposition. Je ne pense pas. Je crois que le problème est ailleurs, parce que quand on voit ça sous forme de confrontation, j'ai l'impression qu'on rate la cible. Parce que quand on voit le mode opératoire, je dis bien, c'est le terrorisme. Le terrorisme, il faut arriver à bien, j'étais à bien dernièrement. Il faut voir la population dehors. Les enfants, encore pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un ami qui me dira que les enfants sont trop traumatisés. Ils ne comprennent plus rien. Chaque soir, les gens vident leurs lieux d'habitation pour se retrouver au centre-ville. Donc, toutes les agglomérations se vident. Alors là, je me pose la question. N'est-ce pas cette fameuse balkanisation dont on parlait, c'est-à-dire on vide les agglomérations environnant la ville, et puis une fois vidée, ces gens-là vont venir occuper et prendre la ville en étau, et comme l'avait dit le gouverneur, ça peut être une autre guerre qui se déclenche au niveau des Beni. Alors réduire ça pour dire qu'il faut un dialogue inter-kivoussien, d'abord les kivoussiens ne se battent pas
actuellement, entre eux. Beni actuellement c'est la zone la plus militarisée, mais pourquoi c'est la question que les gens se posent, pourquoi les militaires ne réagissent pas. La population est traumatisée, la population a peur alors qu'il y a des militaires.
Oui, ça, madame, malheureusement, ça ne cadre pas peut-être avec notre question, mais je vais dire un mot là-dessus. Non, ça aussi, c'était notre problème. Wondo disait qu'il faut voir le commandement de l'armée, qu'il y a un problème. Mais aussi, il y a effectivement une multitude de militaires, une surmilitarisation, et parfois même, or, un des principes de l'armée, c'est l'unité de commandement. Mais parfois, il n'y a pas d'unité entre ce commandement, et ça crée la confusion, et là aussi, ça rend inopérationnel nos troupes, alors que nous avons des vaillants militaires qui sont prêts à se battre, qui sont déterminés, mais quelque part, on a comme l'impression qu'il y a une action où la situation sur place fait que ces gens-là sont quelque part démotivés. Voilà le problème. C'est pourquoi j'ai dit, j'insiste là-dessus, quand on parle de dialogue inter-kivoussien, ce n'est pas le problème entre les kivoussiens. Non, moi je pense que le problème est ailleurs, c'est pourquoi j'insiste qu'il faut voir encore des solutions. D'abord, moi, de plus en plus, je commence à rejeter la thèse de l'ADF. Malheureusement, le gouvernement s'accroche sur cette thèse, mais je leur demande à la modération aussi de se remettre un peu à question pour voir autrement les choses.
Alors, on a suivi aussi le porte-parole du gouvernement tout à l'heure, qui proposait comme solution que ces populations qui vivent dans les villages, de pouvoir aller dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes, pour éviter justement ces attaques des prétendus rebelles ADF. Est-ce que c'est une bonne solution?
Je m'excuse, madame. pour moi, c'est une mauvaise proposition. Ce n'est pas encore une solution, une mauvaise proposition, et c'est écœurant. Écœurant parce que ces gens-là sont sinistrés et on dit qu'ils fassent un effort pour aller vers les agglomérations. Donc, c'est une question nationale. Pourquoi le gouvernement ne peut pas dire ce pays est sinistré, mettons en place les dispositions pour secourir cette population, mais on leur demande non, qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. Non, non, finalement. Que fait le gouvernement et de tout ça? L'assistance à cette population sinistrée qui ne sait pas à quel sens se vouer. C'est pourquoi même, et il a bien compris, il met en garde la population de faire cette justice populaire. C'est parce que maintenant la population est découragée, elle se sent abandonnée, mais avec ce genre de proposition où on lui demande de se débrouiller. Je crois l'article 15, ça date de vieille époque, donc il ne faut pas commencer encore à nous ramener à la vieille époque de triste mémoire.
Merci, Monsieur Balikwisha Jean-Jacques. On va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Aimé Chirinda, depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Pour moi, cet énième massacre vient étaler l'inefficacité des appareils sécuritaires de l'État. Et à mon avis, ces massacres peuvent être analysés de deux façons. Soit il annonce déjà le début d'une guerre à l'Est, comme ce fut le cas en 1996, dans la plaine de la Ruzizi, où les ennemis s'attaquaient d'abord aux civils avant de s'attaquer à l'armée. Soit cela est lié à la disparition du colonel Mamadou, car commencé presque avec le début de son procès, et dont le but peut-être soit démontrer que c'est lui qui maîtrisait la zone, ou soit pour cacher la réalité sur sa disparition tragique.
Monsieur Wondo, comment vous répondez à cet auditeur qui nous écrit de Bukavu, qui estime qu'il y a deux hypothèses pour expliquer ces massacres dans le territoire de Beni? Monsieur Wondo, vous êtes en ligne?
Je suis coupé.
Non, vous êtes en ligne, M. Hondo.
Je n'ai pas suivi la fin de l'intervention de l'auditeur, mais j'ai pu comprendre que l'auditeur a parlé de l'inefficacité du service de sécurité. C'est ce que je ne cesse de relever depuis le début au niveau du commandement, et un intervenant qui a dit même qu'il a parlé du principe d'unité de terrain, unité de commandement, un principe que j'ai développé dans une analyse récente. Parce que quand on mène nos opérations sur le terrain, il faut que sur un même terrain d'opération qu'il y ait un seul commandement de qui proviennent tous les ordres. Et ici, comme j'ai eu à le relever, nous nous trouvons dans un secteur où on a 4 commandants. Il ne faut pas oublier que le secteur du Nord Kivu a été, il y a un secteur militaire qui a été créé, en plus des régions militaires, en plus de l'opération Sukola 2. On se retrouve en l'espace d'une même zone géographique militaire avec 4 chefs chefs militaires, et on ne sait pas qui est réellement le vrai patron des opérations. Contrairement au général Bahouma, il est à la fois le fonction de commandant de la 8e région militaire et de commandant de Sokola 1. Et là, le commandement était clair et les résultats sur le terrain étaient probants. Ici, on a l'impression de pouvoir émietter le commandement. On se pose la question pour quelle raison. Deuxième question, oui, mais quand il y a des signes d'insécurité, il est à craindre qu'on soit dans une situation qui précède peut-être de mouvements ou un conflit armé de grande envergure, d'autant plus que nos analyses mettent aussi également en doute l'Ouganda qui pourrait jouer un jeu double. Il faut tenir compte aussi de la situation géopolitique régionale et de la situation politique individuelle dans toutes ces régions où on se retrouve avec des régimes qui sont peut-être en fin de mandat, ou peut-être qu'en voulant jouer la carte de stabilité, c'est-à-dire créer l'insécurité pour se présenter comme étant le pompier par la suite, ça peut permettre d'être d'autres solutions politiques. Ben, moi, je veux revenir sur un point que un des intervenants, je ne sais pas, qui a mis en doute le fait que nous, analystes, nous doutions effectivement que ce soit les ADEF, parce que l'analyse s'est concentrée sur l'usage des armes blanches. Mais l'intervenant a oublié qu'il n'y a pas plus tard que la semaine passée, un convoi de patrouille de la MONUSCO a essuyé une rafale de tirs à l'arme lourde ou à l'arme blanche, qui n'était pas à l'arme de guerre, qui n'était pas l'arme blanche, et c'était dans un secteur qui était contrôlé par les FARDC. Et ce que nous trouvons ainsi assez incompréhensible, c'est que il y a quelques jours, le chef de la MONUSCO, monsieur Kobler, avait décidé de faire de la situation du Béni sa priorité. Et il a commencé à mettre des troupes sur le terrain. Et on a l'impression que depuis que ces troupes commencent à se mettre en place, ça pourrait gêner certaines personnes. Et on ne comprend pas pourquoi la MONUSCO, soit la cible des assaillants, les mêmes assaillants qu'on présente comme étant des ADF Nalou qui utilisent des armes blanches, et de l'autre côté, ils essuient des tirs à l'arme légère de petit calibre. Et ce paradoxe montre que c'est comme si il y a des gens qui seraient gênés à ce qu'on connaisse la vérité, qu'on sache exactement ce qui se passe. Et quand nous faisons nos analyses, nous sommes aussi en contact avec plusieurs demandes, plusieurs personnes qui sont sur le terrain. Nous essayons d'analyser les faits et les témoignages. Et ici, nous restons quand même assez formels que le problème reste éminemment politique et que ce sont les intérêts politiciens qui seraient plutôt mis en jeu. Et là, il faut aussi, je suis d'accord avec l'intervenant qui a parlé de du lien à faire avec le procès Mamadou Ndala, où on se retrouve avec la condamnation à mort de l'armée de Moussa Niamouissi, alors que le colonel Bizourou, qui était le premier à être déclaré suspect par les témoins qui ont vu l'assassinat de Ndala, a été acquitté. Donc on a l'impression qu'on se trouve à une guerre politique qui utilise des moyens armés et judiciaires et d'autres administratifs. Vous verrez même qu'il y a eu des changements au niveau de la territoriale locale, où les gens qui étaient jugés proches de l'opposition se retrouvent de leur fonction du jour au lendemain remplacés par les gens du
pouvoir. Merci, Monsieur Ondo. Nous retenons que pour vous, c'est un problème politique. Nous considérons cela aussi comme votre conclusion. Nous restons moins de deux minutes pour mettre fin à cette émission, Monsieur le vice-gouverneur. C'est quoi la solution finalement aujourd'hui? Certains analystes, comme Monsieur Ondo, estiment que c'est un problème politique. D'autres estiment qu'il faut appliquer la même stratégie et méthodologie que celle appliquée lors de la rébellion du M23. Qu'est-ce qu'il faut pour que Béni retrouve sa quiétude aujourd'hui?
D'abord, madame, nous tenons à lever l'équivoque. Il n'y a pas cacophonie des commandements. Il se fait qu'en application de la loi sur la réforme de l'armée, qui utilise deux voies, la voie administrative et la voie opérationnelle, avec zone de défense, secteur de défense. Et maintenant, au nord Kivu, nous avons le secteur nord, le secteur sud. Le secteur nord, c'est une zone secteur Sokola 1.
Monsieur le vice-gouverneur, qu'est-ce qu'il faut? On n'a plus beaucoup de temps.
Donc là, il n'y a pas de confusion à faire. La solution, c'est la cohésion entre population, services de renseignement avec les FARDC. Et sur cette cohésion, nous sommes en train de travailler. Les opérations militaires se font, mais également, il faudra disséquer et bien identifier l'ennemi.
Merci, monsieur le vice-gouverneur Djuma Bali Kouchar. En conclusion.
Oui, en conclusion, d'abord, je demanderai à ce qu'on puisse relever certains militaires qui sont là depuis longtemps. Selon même la demande du chef de l'État quand il était de passage en décembre 2013 dans la région. Mais surtout, tous ces régiments-là, je pense qu'il est grand temps aussi qu'on puisse les remplacer, qu'on mette d'autres unités qui vont faire face maintenant à cette nouvelle guerre qui est le terrorisme qu'on veut nous imposer dans le territoire de Béni.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.